écoutez Radio France Internationale, il est 2h ici à Paris, 1h en temps universel, 3h à Goma.
Galibonin.
Au sommaire de cette édition, les combats dans l'est de la République démocratique du Congo, des affrontements ont eu lieu jeudi autour de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. La main gauche tendue, la main droite munie d'un bâton. À Davos, Donald Trump a invité les industriels du monde entier à venir s'installer aux États-Unis ou à subir une augmentation des tarifs douaniers. L'actualité, c'est aussi cette embuscade de l'armée des Philippines survenue mercredi. Un groupe de combattants islamistes pourrait être derrière l'attaque. Un accord de paix avait pourtant été signé avec Manille. Et enfin, comment faire pour que l'Everest ne devienne pas la plus haute poubelle du monde ? Face à une augmentation du nombre d'alpinistes, le Népal fait bondir ses tarifs de près de 40%. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation est restée tendue ce jeudi à Goma. Plus à l'ouest, vers Sake, des combats violents ont eu lieu. D'un côté, l'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux, dits Wazalendo, et de l'autre, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Ces affrontements, avec des détonations d'armes lourdes et légères, se sont fait entendre jusque dans la capitale provinciale. Des milliers de déplacés ont fui de nouveau vers la ville, quittant les camps de déplacés à l'ouest. Le reportage à Goma d'Héritier Baraka.
Si la route principale Katindondosho, l'angoisse est palpable. Des colonnes de déplacés sont à pied, à moto ou en bis en direction de la ville. Alice et Kanyere, désespérés, nous racontent leur fuite.
Toute la population est sur la route et fuit. Il y a beaucoup de militaires aussi sur la route. Il y avait beaucoup de détonations et d'avions qui bombardaient là-bas.
Nous fuyons les bombes et les balles et nous avons quitté le camp. Je n'ai pas de famille à Goma. Je vais seulement dormir devant un enclos avec mes 3 enfants. Que le gouvernement mette fin à cette guerre.
À Goma, Banga, âgé d'une trentaine d'années, marche avec un matelas à la tête. Il a fui Sake et sa nouvelle de sa famille.
J'ai perdu toute ma famille. Les retrouver, ce serait un miracle. J'ai une femme et 5 enfants. Je ne sais pas où ils sont.
À Goma, des écoles et boutiques ont été obligées de fermer. Les autorités militaires du Nord Kivu ont appelé mercredi la population au calme. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Au Proche-Orient maintenant, des centaines de Palestiniens ont fui le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupée sur ordre de l'armée israélienne. Une évacuation qui se fait surtout à pied. L'autorité palestinienne affirme que les troupes ont rasé au bulldozer toutes les routes menant au camp. L'opération Mur de Fer, déclenchée il y a 3 jours, a fait au moins 12 morts. Son objectif, éradiquer le terrorisme dans cette ville de Cisjordanie, estime le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et c'était sa première prise de parole à l'international. Donald Trump a tenu un discours en visioconférence jeudi au Forum mondial de Davos en Suisse. Le président américain a commencé par taper allègrement sur l'administration de son prédécesseur Joe Biden avant de délivrer un message très clair à tous les chefs d'entreprise et dirigeants réunis devant lui.
Mon message à toutes les entreprises du monde est très simple. Venez produire aux États-Unis et vous bénéficierez de taxes parmi les plus basses de la planète. Nous les baissons de manière très substantielle, encore plus que lors de mon premier mandat. Mais si vous ne venez pas produire aux États-Unis, ce qui est votre droit, vous devrez payer des droits de douane qui nous permettront de remplir nos caisses de centaines de milliards de dollars et même de milliers de milliards de dollars pour renforcer notre économie et effacer nos dettes. Sous l'administration Trump, il n'y aura pas de meilleur endroit sur Terre pour créer des emplois, construire des usines ou créer une entreprise qu'ici, dans ces bons vieux États-Unis. Vous pouvez peut-être déjà le voir dans cette merveilleuse salle où tant de mes amis sont réunis, mais aux États-Unis, la confiance dans l'économie monte comme jamais depuis des dizaines d'années. Peut-être même que ça n'a jamais été le cas à ce point-là.
Donald Trump, qui a déjà menacé l'Union européenne, la Chine et surtout ses 2 voisins, le Mexique et le Canada qu'il a de nouveau incité à devenir le 51e État des États-Unis durant son allocution. De même souffle, le président américain a demandé à l'Arabie Saoudite et à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole de baisser les coûts du pétrole. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas déjà été fait avant l'élection, a-t-il dit. Une demande qui a été saluée et appuyée par le président ukrainien Volodymyr Volodymyr Zelensky. La vente de pétrole et de gaz est une importante source de financement pour la Russie. Peu après l'allocution de Donald Trump, les prix du baril ont décroché d'environ 1% en bourse. À Strasbourg, dans un vote quasi unanime, le Parlement européen a réclamé la libération de l'écrivain Boualem Sansal. L'écrivain algérien naturalisé français en 2024 est détenu en Algérie depuis la mi-novembre. Il est poursuivi en vertu d'une loi qui condamne toute action visant, et je cite, à déstabiliser le fonctionnement normal des institutions. Le Parlement européen demande à Alger d'abroger cet article du Code pénal, ainsi que toutes les lois qui restreignent les libertés d'opinion et d'expression. En France, l'auteur de l'attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo est condamné à 30 ans de prison ferme. En septembre 2020, l'homme avait tenté de tuer deux personnes, croyant s'en prendre aux salariés du journal satirique. Mais Charlie Hebdo avait déjà quitté ses bureaux après les attaques de janvier 2015. L'assaillant, un ressortissant pakistanais de 29 ans, a été reconnu coupable de tentative d'assassinat et association de malfaiteurs terroristes. Direction les Philippines maintenant, sur l'île de Basilan, où une embuscade a eu lieu mercredi. Deux soldats philippins ont été tués et 12 autres ont été blessés par des combattants islamistes. Les militaires escortaient une équipe des Nations Unies en visite dans la région. L'attaque dans une zone sensible de l'archipel, le Bangsamoro, une région autonome musulmane des Philippines, un pays à 80% catholique. La correspondance à Manille de Nemo Lecoq-James.
À première vue, les tireurs sont des membres d'un groupe rebelle dirigé par deux combattants islamistes connus dans la région. Mais ils n'étaient pas seuls et l'identification des autres assaillants a provoqué une onde de choc pour les forces armées philippines. En fait, certains d'entre eux ont été reconnus comme des membres du Front Moro Islamique de Libération, le MILF. C'est le plus gros groupe islamiste de la région et c'est eux qui ont négocié, il y a 10 ans, avec le gouvernement philippin, des accords de paix. Parce que jusqu'en 2014, le MILF combattait contre le gouvernement, dans le but d'établir un État islamique indépendant. Aujourd'hui, les relations entre le groupe et l'État philippin sont donc bien meilleures. En 2019, le Bangsamoro, donc la région autonome musulmane, a été reconnue et les premières élections sont censées avoir lieu au mois de mai. Alors pourquoi certains des membres du groupe ont-ils attaqué des soldats philippins ? Cette question, elle provoque de grandes inquiétudes quant au rôle du MILF dans la recherche de stabilité dans la région. Le gouvernement a appelé le MILF à enquêter sur les individus minoritaires de son groupe qui cherchent à entraver les efforts de paix. Nemo Lecoq-James, Manille, RFI.
C'était une journée de célébration pour la communauté LGBT en Thaïlande. Jeudi, le mariage entre personnes de même sexe a été légalisé dans le pays d'Asie du Sud-Est, une première dans la région. Une décision historique saluée par les militants et les défenseurs des droits humains. Près de 2000 couples en ont profité pour officialiser leur union. Et c'est un exploit hors du commun que le tourisme a fini par banaliser. La conquête du Mont Everest, le sommet du monde, dont le nombre de visiteurs a explosé ces 50 dernières années. Pour freiner le surtourisme, le Népal a augmenté drastiquement les tarifs pour les alpinistes. Autre objectif, éviter que l'Everest ne devienne la plus haute poubelle du monde. Les précisions de Yelena Tomic.
Pour gravir le toit du monde, les alpinistes devront désormais débourser dès septembre 15 000 dollars, soit 36% de plus que les tarifs pratiqués jusqu'ici. Le permis en dehors de la haute saison, d'avril à mai, sera délivré moyennant 7 500 ou 3 750 dollars selon la période. Au printemps dernier, la Cour suprême du Népal avait ordonné au gouvernement de limiter le nombre de permis pour l'Everest et d'autres sommets sans fixer un nombre maximum. Selon certains organisateurs d'expéditions, cette augmentation n'aura pas d'impact sur les demandes des alpinistes étrangers. Plus de 400 permis ont été délivrés l'an dernier. Cette surpopulation a entraîné au fil des ans une accumulation de déchets, environ 100 tonnes par saison selon les estimations. Un défi titanesque pour les Népal qui espèrent, grâce à cette mesure, limiter le nombre d'ascensions et utiliser ces fonds pour protéger l'environnement et améliorer la sécurité des grimpeurs. Depuis 2019, au cours de 5 opérations de nettoyage, l'armée népalaise a récupéré 119 tonnes de déchets, 14 cadavres humains et quelques squelettes. On estime à plus de 200 le nombre d'alpinistes morts en tentant d'escalader l'Everest.
Le compte-rendu de Yelena Tomic qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le www.rfi.fr.